Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc,
Bouffon ?
À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
C'est la saison des courges, des légumes qui s'enterrent pour se réchauffer. Et puis c'est aussi la saison des... Déjà, ils ont déjà mis les décorations de Noël. Et puis c'est aussi surtout la saison des... Ah non, je te fais pas la bise en fait, parce que je suis malade. C'est une étape de la vie qu'il ne faut pas oublier et pendant laquelle on voulait aussi vous accompagner. Parce qu'en fait, c'est vrai, on mange quoi quand on est malade ? Quand on est fatigué, agacé, enrhumé, avec le nez qui coule, et qu'on a un peu l'impression d'avoir une énorme gueule de bois, sans pour autant avoir eu le moindre avantage d'une soirée réussie la veille. Comment se nourrir dans ces moments-là où la tentation, c'est de se faire livrer un burger, mais quand la raison, une certaine réalité écologique, et aussi l'envie d'exploiter environ zéro livreur en deux roues, nous disent que c'est pas la meilleure des idées. On mange quoi quand on est malade ? Est-ce qu'on avait raison de manger des coquillettes, de la purée et autres soupes de pâtes en forme de lettres quand on était petit ? C'est toutes ces questions qu'on essaiera d'éclaircir en deuxième partie d'émission avec Julien Méniel, youtubeur, ex-infirmier qui anime aujourd'hui la chaîne Dans ton corps, dans laquelle il vulgarise la santé.
Idéalement, quand t'es malade, que t'as pas très faim et qu'il faut quand même bouffer un peu, tu peux fractionner tes repas.
Mais d'abord, c'est Alexandra Lepage, de chez Papa Sapiens. Papa Sapiens, c'est plusieurs épiceries dans Paris qui servent des produits d'exception, mais aussi une adresse où on peut manger. Et à la carte, figurez-vous, un plat régressif, signe de jour de maladie sous la couette, le jambon puré. À la carte d'un resto, si si, je vous jure. Avec elle, on a forcément parlé de réconfort, mais on a aussi parlé de sourcing, parce que c'est son métier à elle. Et le sourcing, c'est un truc dont on entend souvent parler sans forcément savoir quoi mettre derrière. Et elle nous a expliqué tout ça, et puis aussi plein d'autres trucs, dont la recette d'un jambon puré réussi.
Je mangeais des plats très très simples, certainement dans un bol, je crois me souvenir, avec une cuillère à soupe. Ça devait se limiter à un plat de coquillettes ou une bonne purée maison, voilà.
Ouais, comme j'imagine beaucoup de gens.
Comme beaucoup de gens, effectivement.
Alors on reviendra un peu plus tard sur le sujet des plats régressifs et des plats d'enfance, mais d'abord on voulait parler de Papa Sapiens, qui est l'épicerie que vous avez, enfin une des épices, enfin qui est plusieurs épiceries, pardon, que vous avez ouvert avec une bande d'amis à vous.
Exact.
Vous avez raconté l'histoire de plein d'endroits partout, mais moi j'aime bien, donc j'aimerais bien que vous la racontiez encore une fois.
Oui, évidemment. Alors l'histoire, en fait, déjà, c'est... Moi, j'ai toujours été passionnée de nourriture, bercée dans cet amour des bons produits depuis que je suis petite. Et donc, j'ai d'ailleurs fait des études un peu classiques, mais travaillé rapidement dans le monde de l'agroalimentaire parce que je ne me posais pas beaucoup de questions. Il fallait que le produit autour duquel je travaille m'interpelle sur le plan de la gourmandise. Et puis, à force d'expérience, une envie d'entrepreneuriat et surtout une envie de revenir aussi au vrai. J'ai la chance d'être accompagnée par mon mari qui est un épicurien, un gourmet fini comme moi. On s'est un peu rencontrés autour de cela. Et puis, il y a un peu plus de 5 ans, presque 6 maintenant, on s'est dit qu'effectivement, on avait envie de créer un projet ensemble avec 2 autres copains passionnés, eux aussi, de gastronomie. Et est venue l'idée de Papa Sapiens. En fait, au début, c'était une idée un peu plus extrême, comme souvent d'ailleurs, quasiment un rêve qu'avait fait Julien. Et l'idée étant de proposer un lieu qui ne faisait que surfer sur les pics de saisonnalité. Alors, au moment de la galette des rois, la boutique n'aurait été qu'une galette des rois. Au moment de la fraise également, des asperges. Un peu l'idée que quand on va au marché, qu'on veut des tomates, on va chez le producteur de tomates plutôt que chez le maraîcher. Ça, c'était l'idée de départ. Et puis, on s'est aperçu rapidement que ça allait très compliqué à mettre en place. Et donc, on s'est dit, pourquoi se limiter finalement ? Tous les produits que l'on aime, on a envie de les proposer, de les rassembler et de surtout transmettre les histoires. La vocation de Papa Sapiens, c'est évidemment de regrouper avec une sélection assez pointue parce qu'on a des petites surfaces de vente. Ça, c'est très volontaire. On ne souhaite pas proposer 10 moutards, 10 huiles d'olive. C'est pas le but. On veut que les gens se reconnaissent dans notre choix. Mais la vocation de Papa Sapiens, c'est aussi évidemment de proposer des vrais produits et d'expliquer pourquoi ils sont de vrais produits. Raconter l'histoire des hommes et des femmes qui sont derrière et transmettre ces histoires.
C'est vrai, l'histoire que vous faisiez des concours de celui qui allait trouver le meilleur ou tel produit avant d'ouvrir la boutique, c'était un peu le...
Ouais, sans être des concours, mais en tout cas des soirées fréquentes où on amenait nos petites pépites et se faire découvrir de nouvelles tables. Ça, c'était quelque chose d'ultra récurrent et pour ça que naturellement, ces gens-là se sont sentis concernés par le projet.
Et c'est vrai que là aussi, l'idée de raconter les histoires derrière les produits, c'est important pour vous, et notamment pour vous en plus qui vous occupez du sourcing, vous connaissez quasiment tous les gens qui ont vendu les produits.
Ouais. Bien sûr. Bah, c'est de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est fait de rencontres. Moi, j'ai la chance avec ce travail-là maintenant, cette passion de rencontrer des gens tout aussi passionnés, extrêmement courageux, parce que se lancer dans l'élevage ou la production aujourd'hui, faut vraiment être passionné et courageux. Et donc, ce sont des gens qui ne laissent pas insensibles. Et c'est impossible de parler de leurs produits sans parler d'eux. Et je trouve que nos clients accueillent extrêmement bien ces histoires parce qu'on est dans une époque aussi où on a besoin un peu de réhumaniser les choses. On nous a fait manger tellement de cochonneries depuis des années que voilà, on a un vrai souci du vrai et du bon. Et finalement, d'expliquer qui est la femme, qui est l'homme derrière ce produit. Pourquoi sa viande est bonne? Parce qu'il élève ses bêtes sur 24 à 36 mois, parce qu'il est nourri de cette façon-là, parce qu'il les bichonne, parce qu'il les aime tout simplement. Eh bien, c'est important. Et donc, moi, c'est vrai que ces producteurs-là, je les adore et je suis trop contente d'en parler.
Alors, du coup, j'ai évoqué tout à l'heure, mais vous vous occupez de la partie sourcing de l'épicerie. C'est un mot, je pense, que beaucoup de gens entendent un peu souvent sans forcément savoir exactement quoi mettre derrière. C'est parfois même un mot un peu mis en avant parce qu'il est à la mode. Mais justement, vous, c'est la première fois que dans Bouffon, on a quelqu'un qui s'en occupe et qui le fait.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous raconter c'est quoi faire du sourcing?
Sourcing, déjà, c'est vrai qu'on pourrait trouver aussi une expression française qui... Disons que je suis là pour dénicher des pépites, je suis là pour faire des rencontres sur le terroir français principalement et découvrir des pépites culinaires. Voilà. Donc c'est ça le sourcing, c'est être extrêmement ouvert à plein de médias, puisque moi... Il y a plein de façons de faire du sourcing. Ça va être effectivement d'aller en région, ça c'est évident. J'ai souvent une idée un petit peu précise derrière, je vais chercher un produit. Donc a priori, je vais m'intéresser à la région originaire de ce produit. Je vais faire les marchés, je vais rencontrer des producteurs. Ça c'est vraiment l'approche terrain. Ensuite, il y a le réseau. Nous, on a beaucoup de copains chefs, évidemment. Maintenant, beaucoup de copains producteurs et c'est un petit milieu. Les gens qui travaillent bien connaissent d'autres personnes qui travaillent bien. Donc, ce vecteur-là du réseau est très fort. Après, ça va être aussi les salons, bien sûr, quelques salons. Le Collège culinaire de France, aujourd'hui, auquel nous avons la chance de faire partie, qui regroupe justement des gens qui travaillent le vrai et le bon et le beau. Là aussi, c'est une mise en relation super. La presse, bien sûr. Enfin, tous les médias qui font que voilà, on va essayer de trouver un produit.
Il faut rester ouvert à toutes les.
Faut rester ouvert à toutes les sources, ouais.
Une des belles rencontres que vous avez en tête, j'imagine qu'elles sont toutes celles en tout cas que vous vendez dans la boutique sont belles, mais s'il y en a une.
Oh là ouais, alors ça va être, oh, c'est très compliqué ça, c'est pas sympa parce que du coup je vais parler, je vais peut-être vous parler d'une rencontre à venir. Souvent, vous voyez, il y a un premier échange, moi je prends mon téléphone, j'appelle les gens, alors ils sont plus ou moins réceptifs. Et là j'ai appelé une personne, une jeune femme de 28 ans. J'adore ces histoires-là, qui ses parents sont avocats, elle a fait des études de droit parce qu'elle se posait pas beaucoup de questions, ou en tout cas peut-être qu'on ne lui permettait pas de s'en poser beaucoup. Et puis, au bout de ses études, elle a décidé finalement de réaliser sa passion, une espèce de vocation qu'elle ressentait en elle depuis toute petite. Il y a 3 ans, elle s'est lancée dans l'élevage de cochons, une race toute particulière, originaire de Hongrie d'ailleurs. Et j'ai passé 40 minutes avec elle au téléphone. Et c'est le genre, voyez, de... On ne se connaît pas encore, j'y vais dans un mois, là. Mais c'est merveilleux. Enfin, on raccroche au bout de 40 minutes et on se dit, ah, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là. Elle est tellement courageuse, déjà. Moi, je trouve que c'est dingue. À 28 ans, elle a acheté 80 hectares dans la Drôme. Enfin, c'est hallucinant. Et sa voix chantait. Il y avait les tripes qui parlaient. J'ai raccroché mon téléphone et j'ai qu'une envie, c'est d'aller la voir en vrai. Ça va être super. Donc voilà, vous voyez, une rencontre, le verbe, l'action, l'amour, la passion, en fait, la transmission de ces valeurs-là, c'est ça qui se passe. C'est ça, ces belles rencontres-là.
Ça fait 7 années que vous avez ouvert un restaurant, enfin dans une épicerie.
Ouais, alors on l'a ouvert il y a un peu plus d'1 an maintenant. Okay. Ouais.
Et quelle était l'idée de passer de juste vendre des produits à vendre des produits cuisinés?
Plusieurs idées derrière la réalisation du projet. La première, je pense que, et ce n'est pas la meilleure raison, hein, c'est de réaliser un rêve de gamin. Donc, quand on est ultra gourmand, et que, voilà, moi, ma sœur me rappelle que quand j'étais toute petite, je lui disais un jour j'aurai mon restaurant. Bon, ben voilà. Donc, Julien, mon mari, certainement pareil. Et donc, on s'est lancé. Je dis que c'est pas une bonne raison parce que franchement, se lancer dans la restauration, ça aussi, faut demander, ça demande un certain courage. Quand on n'est pas issu du métier, c'est assez challenge. Donc ça, c'était une des raisons. L'autre raison, ça nous paraissait assez évident qu'ayant des produits d'exception, il était judicieux de les mettre en musique et de les présenter à nos clients, transformés, mais finalement assez simplement, pour les inspirer. Voilà, en gros, avec notre volaille, avec cette épice, voilà ce que tu peux faire. Et donc, c'était ça, en fait, l'idée. Hein. C'était de prolonger notre désir de transmission au-delà des produits. Voilà, voilà le produit transformé, voilà des recettes simples à faire chez vous.
Et justement, en parlant de recettes simples, et c'est un peu le sujet de cet épisode, à la carte, vous avez des recettes un peu, on va dire, régressives, sans être péjoratif, mais vous avez vraiment un jambon purée.
Ouais.
Et moi, le jambon purée, ça m'évoque... les recettes que ma mère me faisait quand j'étais cloué au lit parce que j'avais un rhume à l'école primaire et que j'allais pas à l'école, j'étais au lit, on m'apportait un jambon purée. Ça contraste quand même avec l'image qu'on a de l'épicerie, qui est une épicerie de produits d'exception, presque de luxe, et du coup qui sert en plus même, je crois que tous les prix de la carte sont pas non plus très chers, c'est pas excessif. D'où vient cette idée à la fois de servir une cuisine presque bon marché et en plus une cuisine un peu régressive?
Alors juste petite parenthèse, parce qu'effectivement on a cette image là d'être des épiceries de, entre guillemets, de luxe. J'aimerais bien revenir là-dessus parce que ce n'est pas le cas, en fait. On a des produits malheureusement un petit peu plus chers que la moyenne parce que les gens travaillent bien, que nous achetons cher les produits, qu'on négocie pas les prix et qu'on est obligé de dégager un minimum de marge. Donc cette perception vient de cela, parce que dans nos boutiques, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des vrais produits du quotidien, des produits que je mange et que je fais manger à mes enfants. Hein. Et donc le jambon, par exemple, notre jambon à l'os, qui est effectivement au cœur d'un de nos plats, c'est un jambon, l'un des plus basiques, qui vient de Normandie. Il est cuit au bouillon une vingtaine d'heures. Il n'a évidemment aucun conservateur, sel nitrité, quoi que ce soit. On est dans un produit ultra pur. Donc ça, moi, je le fais manger à mes enfants depuis qu'ils sont petits. Je le mange moi-même. Et donc, il est dans nos boutiques. Hein, c'est de donner accès aussi à des produits simples du quotidien, mais qui sont excellents. Et donc, pousser l'exercice au restaurant, effectivement, en proposant... Moi, j'adore ça parce que... comme je suis gourmande, de ces produits-là aussi, comme vous disiez, des plats régressifs, des plats d'enfance, des plats basiques et des plats surtout hyper faciles à faire à la maison. Donc le jambon purée en fait partie. Il y en a d'autres, mais le jambon purée en fait partie. Et c'est vrai que c'est un succès étonnant. Déjà parce que les gens, ça les fait marrer. Quelque part, ils sont au restaurant. À Bourse, où on est, on a quand même une clientèle... aguerri, il y a une offre extraordinaire de restaurants autour, etc. Et du coup, là, c'est un peu décomplexé. On va chez Papa Sapiens, allez, on se fait le jambon purée, il est top. Et il y a un petit côté rigolo, quasiment provocateur à vouloir prendre un plat pareil. Mais une fois qu'on a l'assiette et qu'on le mange, les gens, ils sont trop contents. Donc, on a beaucoup de clients qui viennent pour des plats comme le jambon purée, steak haché purée. Alors après, il y a des habitudes. Il y a des clients qui nous demandent de faire un puits dans la purée.
C'est vrai.
Donc, évidemment, on pourrait quasiment le mettre en option sur la carte. Puits dans la purée en option, pas de problème. Zéro ajout, ça ne vous coûtera pas plus cher. On a une crème caramel aussi qu'on présente dans une grosse terrine. On sert à la louche comme ça à nos clients. Voilà, le plus simple, des fois, le meilleur. Donc, ça n'empêche pas une cuisine un peu bistrot élaborée de temps en temps, mais... ce sont des valeurs refuge, quoi. Comme vous disiez, on a goûté ça enfant, et ben finalement, de pouvoir avoir accès à nouveau à ces sensations et ces plaisirs un peu basiques, c'est top.
Alors, comment on fait un très bon jambon purée? Donc, vous avez déjà dit que le jambon venait de Normandie, sans nitrite, sans ajout, tout ça. Donc, j'imagine que c'est un très, très bon jambon.
Ouais.
J'imagine que la purée aussi, c'est important de la réussir. Qu'est-ce qu'on prend comme pommes de terre? Comment on les trouve?
Eh bien, ça, c'est les secrets de notre chef Clément. On prend des pommes de terre bio, de toute façon, ça, c'est clair. Je crois savoir qu'il utilise la pomme de terre Rat. Et elle est... Après, c'est, vous savez, c'est vraiment une technique, hein, la purée. Hein. C'est de cuire ces pommes de terre vapeur, c'est de les râper extrêmement finement au tamis. C'est finalement, quand on a déjà une matière première qui a du goût et qui est saine, on va éviter aussi de surcharger avec des matières grasses. Donc, il y a un peu de lait, il y a un peu de beurre, il n'y a pas de crème fraîche, et elle est très mousseline. Elle est super aérée, hyper légère, et finalement peu grasse. Je ne vais pas vous dire que c'est un plat diététique, mais presque, quoi.
Et un jus de cuisson aussi, un jus d'herbe, non? C'est ça qu'il y avait avec...
Alors après, ça varie. Hein. C'est vraiment selon ses humeurs et selon ce qu'il a dans son garde-manger. Donc quand c'est la saison de l'ail des ours, bah, il se fait plaisir, il fait un petit jus comme ça. Ça peut être un petit jus de viande, ça peut être un petit jus d'herbe. Voilà, donc ça, c'est très variable. Le jambon puré demeure, le petit jus est à loisir.
Et qu'est-ce qui fait que le jambon puré ou même le steak haché puré sont des plats, à votre avis, qu'est-ce qui fait que c'est des plats un peu réconfortants d'enfance? Qu'est-ce qu'il y avait de différent des autres?
Bah, c'est ce que j'expliquais. En fait, je pense que déjà, oui, ça fait appel à nos souvenirs d'enfance. Ça, c'est clair. Ce sont des plats réconfortants parce que finalement, assez simples aussi. Et puis, on est au cœur du produit. Quand on met ce jambon en bouche, quand on le mâche, on sait qu'on est dans du bon. Vous voyez, c'est un côté rassurant. Quand on mange une cuisine un peu plus... élaborée, faite de davantage d'assemblages, de produits. Voilà, on reconnaît les uns et les autres, mais là, on est dans le brut, en fait. Et le brut, quand il est vraiment bon, je pense qu'il est rassurant. Donc, les gens ont effectivement la conviction de manger un produit sain, un produit bon, un produit réconfortant qui leur rappelle effectivement plein de souvenirs. Et comme je le disais, finalement, il y a presque un côté décalé. Moi, j'aime bien l'idée... Chez Papa Sapiens, on est hyper attaché à ça, l'esprit tribu. Hein. Nous, on est quelques associés, on est très proches, très supporters de notre équipe. Vous voyez, on est vraiment intime. Je considère que cette tribu s'applique aussi à nos clients très fidèles qu'on adore, à nos producteurs. D'ailleurs, souvent, enfin une fois par an, on essaie d'organiser une soirée où on est tous ensemble. Ce côté un peu familial. Et finalement, que Papa Sapiens puisse proposer des plats un peu de famille, quoi, des plats qu'on mangerait à la maison, c'est-à-dire on relâche la pression, le gastro, etc. C'est super, on adore nous aussi. Hein. Mais là, on se pose, on est quasiment entre nous, on va manger du bon, du basique. Il y a un petit côté, peut-être, ça. Vous voyez, la famille, quoi. La famille, les papas et les mamas, finalement.
C'est que je pense, mais
c'est logique.
Les clients, les habitués, on leur compte serviette, c'est vrai?
Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, ça, c'est une idée vraiment toute simple que j'ai eue. Bah, ça renvoie complètement à cette notion de tribu. Les gens qui nous font le plaisir de venir régulièrement, j'ai envie qu'ils soient... reconnu pour ça, entre guillemets aimé pour ça, et donc le rond de serviette, c'est un truc vraiment basique, et donc nos clients, quand ils réservent, on les connaît bien, on a leur prénom, et ils arrivent, ils ont leur rond de serviette avec leur prénom, et ils adorent. Et ce qui est hyper marrant, c'est que nos fidèles, quand ils viennent avec des copains à eux, qui ils disent, ah, mais pourquoi t'as un rond de serviette, toi? Et ils disent, quand je suis là, je leur dis, c'est pas très compliqué, vous venez à minima une fois par semaine et vous aurez votre rond de serviette. Donc finalement, c'est petit côté aussi, une émulation. Ouais. Exactement, voilà.
Et alors, pourquoi Papa Sapiens, en fait? J'ai oublié de poser la question. Mais
le nom?
Oui.
Alors, le nom, en fait, déjà, l'un de nos associés, Christophe Perruchat, est quelqu'un qui vient du milieu de la communication. C'est son métier. Il a son métier d'origine et rédacteur. Et d'ailleurs, c'était un peu le principe de notre association. C'est-à-dire, on a chacun nos compétences, nos atouts, nos envies. Donc, on ne viendra pas marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. On se fait confiance. Donc, lui, comme je le disais, notre envie était vraiment de transmettre ses histoires. Et lorsqu'il s'est réuni avec ses copains créatifs, le mot sapiens, sapidité, etc., revenait très, très souvent dans la transmission d'un savoir, d'une connaissance. Donc, sapiens est venu de façon assez centrale et récurrente. Et ils ont décidé d'y accoler le mot papa, papa sapiens, parce que déjà, ils trouvaient que ça sonnait bien. Ça avait ce côté, justement, table, famille, partage. Et voilà. Et quand il est venu d'ailleurs m'annoncer, on va s'appeler Papa Sapiens, je lui ai dit mais jamais. Je ne comprends pas du tout le concept. Et puis finalement, comme quoi, j'avais eu raison de lui faire confiance parce que c'est un nom que les gens retiennent et qui fonctionne bien, quoi.
Vous pouvez retrouver ce jambon puré chez Papa Sapiens ou peut-être chez vous si ça vous a chauffé et donné envie d'en faire un à l'instant. On avait tous d'ailleurs un truc qu'on mangeait tout le temps en malade. Moi, c'était des pâtes au jambon avec du ketchup et un peu de coca battu. Je vous jure que c'est un vrai truc qui permet de redonner un peu de force. Enfin, c'est mes parents qui me disaient ça. Alors, tous ces trucs qu'on faisait enfant et qu'on refait maintenant, ça servait vraiment ? Et est-ce qu'on avait raison de faire tout ça ? Et plus généralement, c'est quoi les bonnes pratiques quand on est malade ? C'est de tout ça dont on a parlé avec Julien Méniel, vulgarisateur santé sur YouTube.
Ça m'arrivait déjà avant, en fait. Rien que le fait que les gens sachent que j'ai, que j'ai un diplôme d'infirmier, donc que j'ai été infirmier, c'est toujours le truc. Que ce soit, je pars en Inde la semaine prochaine, tu peux me faire mon vaccin, ou dis donc, j'ai entendu dire que si, que ça, machin et tout. Et puis cette histoire de choléra, là, c'est quoi, machin et tout, tout le temps. Et je dis, va regarder ma chaîne, abonne-toi. non, mais je réponds, en vrai, je réponds, un, je suis pas médecin. Donc, moi, je peux te dire des trucs que je connais. Deux, j'ai pas exercé depuis longtemps. Donc, quand c'est des questions aux débeautés, tu vois, c'est quand je fais mes vidéos, je réactualise mes connaissances parce que ça évolue super vite. Donc, je donne des pistes, mais plus pour que les gens aillent se renseigner. Et vraiment, le message à chaque fois, c'est vraiment, si t'as un doute, si t'as un souci, va voir ton médecin. C'est quand même la meilleure idée.
C'est un bon disclaimer pour commencer l'épisode. Alors, toi, c'était quoi ton plat les jours de maladie quand t'étais petit?
En fait, moi, j'étais très peu malade quand j'étais petit.
Ok.
Toujours, d'ailleurs. La maladie la plus fréquente que j'ai eue, c'est pas vraiment une maladie, c'était des indigestions, en fait. J'étais malade parce que je bouffais trop. Et du coup, je mangeais.
Ah oui, du coup, tu mangeais pas.
Mes parents me foutaient plutôt à la diète.
Ouais.
Après, j'ai quand même eu deux, trois grippes ou des trucs comme ça. Et dans ces cas-là, c'était les basiques, quoi, tu vois, jambon, coquillette. Purée jambon, des petites soupes maison faites par ma maman ou par mon papa qui était hyper hyper bon cuisinier, mais voilà, toi, les petits trucs, les classiques, quoi.
Et pourquoi tu penses qu'on fait ce truc de donner des, enfin, d'où ça vient, en fait, ce truc de, parce que moi aussi j'avais jambon purée, moi aussi j'avais coquillettes, jambon soupe et tout, et j'ai l'impression que c'est un truc très commun à tout le monde. Pourquoi les jours où on est malade on mange pas des burgers avec des frites, ou pourquoi on va dans ce truc très régressif? Très mou, très...
Ouais, le truc, c'est que... En plus, c'est un truc que tu gardes plus ou moins à l'âge adulte, quoi.
Moi, c'est sûr que si mes enfants sont malades, ils mangeront des coquillettes de jambon.
Mais même toi, j'imagine, aujourd'hui, oui. Quand t'es malade, tu te fais des coquillettes de jambon, machin et tout. En vrai, je pense que t'as un aspect... à mon avis, l'aspect principal, c'est l'aspect psychologique. Quand t'es malade, t'es vulnérable. Tu te sens un peu en dessous, tu régresses un peu, comme tu dis, quoi. Il y a un côté régressif, il y a un côté petite Madeleine aussi, quoi. Enfin, tu vois, quand t'es petit et que t'es malade, c'est tes parents qui s'occupent de toi, donc tu te laisses porter. Du coup, quand tu grandis, tu refais les mêmes choses, quoi. Et malgré tout, je pense qu'il y a aussi ce côté comfort food où tu te dis je suis pas bien. J'ai besoin de réconfort, je vais manger des trucs qui, me rappellent des trucs chouettes de mon enfance, deux, des trucs qui sont bons à bouffer. Donc vraiment, je pense qu'il y a, ce double aspect-là qui rentre en jeu dans ces cas-là. Ouais.
Mais alors, pourquoi nos parents faisaient, tu penses, ces trucs-là? Est-ce qu'il y a un rapport de... C'est pas très dur... Enfin, peut-être après, tu vas te dire si c'est vrai ou pas, mais que c'est pas dur à digérer. C'est plein de bonnes choses, c'est facile à manger.
En fait, pour les trucs super, genre coquillettes, jambon, machin et tout, je crois que c'est juste parce que les gamins, déjà de base, c'est le truc qu'ils acceptent de bouffer. En plus, quand ils sont malades, ils sont encore plus relous. Donc, tu dis, vas-y, aujourd'hui, je vais pas essayer de te faire bouffer des brocolis, tu vas bouffer des coquillettes, jambon et ça va passer. Après, t'as le truc quand t'es malade, quand t'as de la fièvre. De toute façon, t'as peu d'appétit. Je pense que les parents, ils savent ça aussi. Et donner un truc à manger...
Trop sophistiqué.
trop sophistiqué. En plus, ouais, c'est vrai que c'est plutôt digeste, tu vois. Jambon blanc, poulet, pâtes, machin, c'est des trucs, c'est à la fois facile à bouffer, facile à digérer. C'est un truc, tu sais que ça va... faire un peu du bien, et ça va pas être rejeté. Donc je pense que les parents ils vont à la facilité, mais du coup c'est plutôt bien vu, quoi.
Ouais, mais est-ce qu'il y a un truc particulièrement, est-ce que c'est bien pour l'organisme ou pas spécialement, est-ce que d'ailleurs même est-ce que c'est un bon choix de faire ça?
En vrai, le bon choix, c'est de faire un truc qui se bouffe. Comme je te disais, quand t'es malade, t'as pas trop envie de bouffer. Il faut que tu manges, mais en vrai, si t'es malade, on parle de trucs genre une crève, une grippe, un truc comme
oui,
ça.
Oui, on parle pas de cancer.
On parle pas d'un cancer de l'œsophage, là, ça complique un peu le truc. Mais ouais, t'es malade 3 jours. Si tu bouffes pas de ouf pendant 3 jours, si tu manges si tu bois de la flotte, si tu manges un peu de sucre, machin, etc., juste histoire de maintenir, ça va, quoi. Tu vas pas clamser. À l'inverse, si tu bouffes beaucoup, ça va pas t'aider à guérir, et même à la limite au contraire. Donc c'est moi
pourquoi, parce que c'est
en fait, si tu la digestion, c'est un truc qui demande un max d'énergie à ton organisme. Quand t'es malade, ton organisme, d'ailleurs c'est pour ça que t'as pas faim en fait, c'est parce que ton organisme, il a besoin d'énergie pour combattre l'infection, enfin la bactérie, le virus, le voilà, pour combattre la maladie. Du coup, lui, il se met en mode économie d'énergie, tu vois, il se dit bon, allez, la bouffe, on verra ça plus tard, pas besoin. Là, on est commando sur la maladie. Donc, donc si tu surcharges, si tu bouffes comme un goré, bah, toute l'énergie que tu vas dépenser à digérer, tu vas pas l'avoir pour combattre la maladie. Donc en vrai, c'est pas forcément une bonne idée de trop manger quand t'es malade.
Ok, donc pas trop manger, mais c'est important de manger quand même. Ou tu dis que ouais, c'est important, faut quand même.
Bah, sinon tu meurs.
Oui. Non mais tu disais que c'est pas très grave si on allait dans le sens de cette petite envie de manger. Est-ce que quand même il faut se forcer un petit peu? Est-ce que faut.
Il faut. Après, ça dépend si c'est toi ou si c'est un gamin, tu vois.
Oui.
Mais même un gamin, en vrai, tous les pédiatres te diront, un gamin, ça se laisse pas mourir de faim. Donc, s'il a pas faim, surtout s'il est malade, c'est peut-être pas une bonne idée de le forcer. De toute façon, il va finir par te gerber dessus, donc c'est pas forcément la bonne idée. En vrai, le seul truc qu'il faut se forcer à faire, c'est boire. De la flotte, hein, on parle.
Oui, faites faire boire vos enfants.
Un maximum de cognac. non, mais... maladie égale fièvre dans une grande majorité des cas. La fièvre, tu transpires, tu as une élévation de ta température, donc tu perds de la flotte. Si en plus tu as une gastro, machin, entre les vomissements, la chiasse, etc., tu perds encore plus de flotte. Donc boire de la flotte, c'est le truc
numéro un.
Après, ouais, il faut bouffer un peu, mais genre, tu vois, si tu manges une soupe le soir, une purée le midi, machin, ça fait le job.
Il n'y a pas d'aliment, parce que je me rappelle, tu avais fait une vidéo sur la gueule de bois,
ouais.
Et en disant que on se trompait complètement quand on voulait manger de la junk food et des trucs comme ça, qu'en fait ce qu'il fallait c'était des trucs plutôt frais, plutôt aqueux, plutôt
ouais,
genre des salades et des trucs comme ça.
Le truc, c'est les trucs gras, ça c'est ton foie qui bosse, donc dans le de la gueule de bois, ton foie il a déjà autre chose à foutre, mais en vrai quand t'es malade, ton foie il a du taf aussi, donc si tu le surcharges de graisse, tu l'empêches de faire son boulot correctement, donc c'est pas une bonne idée. Non, vraiment les trucs à bouffer, c'est des trucs faciles à digérer, des trucs qui vont, un, pas pomper toute ton énergie, deux, pas surcharger ton foie après. Quand t'es malade, t'as quand même rarement envie de te faire un énorme burger avec triple cheddar et tout. Mais ouais, ce qu'il faut manger, c'est plutôt des trucs faciles à digérer, donc des trucs légers. C'est pour ça qu'en vrai, et les parents et nous, nos réflexes, c'est plutôt... C'est plutôt logique, quoi.
Donc on peut dire aux gens de continuer de manger des soupes quand vous êtes malade. Ouais. La soupe, c'est bien parce que ça fait de l'eau en même temps.
Ouais, en plus, ça apporte du liquide, ouais. Alors, par contre, t'as un truc... Ou je sais pas trop, parce que après, moi je suis pas médecin, et puis autant me dire qu'il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui leur pointent sur la question.
Que manger quand vous avez le rhume?
Mais t'as une espèce de croyance autour du fait qu'il faut manger ou boire des trucs super chauds quand t'es malade. Je pense que c'est un peu relié à cette espèce de croyance aussi qui dit que quand t'as de la fièvre et que tu grelottes machin et tout, il faut te couvrir à mort pour
transpirer à fond.
Ouais, en fait, ça c'est des conneries. Quand t'as de la fièvre, il faut te découvrir.
Ah ouais?
Bah, parce que c'est comme ça que la fièvre elle descend. Et du coup, je pense que le côté bois ou mange super chaud quand t'as de la fièvre, ça vient de là. Et en vrai, autant ça peut être Genre, si t'as une infection au niveau du nez, de la gorge, machin, etc., que t'as le nez un peu pris, la chaleur, ça peut un peu décongestionner, ça peut un peu dilater, tout ça, ça peut faire du bien. Autant pour la, fièvre, c'est pas, pour la fièvre, c'est pas une, forcément une bonne idée. Et puis, si t'as la gorge enflammée, irritée, machin, etc., manger ou boire trop chaud, c'est pas forcément non plus une bonne idée. Ça va aggraver l'inflammation. Du coup, pas forcément bon.
C'est une parenthèse, mais toi tu dis qu'il faut pas, quand t'as la fièvre, faut pas dormir avec 4 pulls et
non,
faut faire l'inverse.
Ouais, mais après, évidemment, c'est comme 90% des trucs de prévention. Personne fait ça parce que le réflexe, c'est en fait t'as froid.
T'as froid, ouais.
Mais en vrai, à l'hôpital, quand je bossais à l'hôpital, les patients en hyperthermie, donc vraiment des grosses fièvres, on les foutait à poil total. Et même des fois, on leur foutait des draps humides,
ah ouais,
et tout. Les gamins, tu leur donnes un bain un peu, alors pas trop froid, sinon la
fièvre.
Non, mais sinon ils convulsent surtout.
Ah oui.
Mais il faut rafraîchir les gens qui ont de la gentiment, mais il faut rafraîchir les gens qui ont de la fièvre. Donc toi, quand t'as de la fièvre, si tu te fous sous une couverture, bah tu restes brûlant, quoi.
Et est-ce qu'il y a, t'as fait un livre sur le, qui c'est sur le caca?
Absolument, c'est sur le caca.
Ça fait aussi partie de la bouffe, quelque part.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai ce truc qu'il y a des aliments qui, quand on a la gastro par exemple, qui doit être un truc qui va arriver aux gens, je pense, dans les mois qui vont venir après l'écoute de ce podcast, il y a 2 chances sur 3.
On n'est pas loin.
Et est-ce que c'est vrai le truc de genre mange du riz, ça va t'aider, ou est-ce que c'est vrai qu'il y a des aliments qui sont plus propice à ça que d'autres?
Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Oui, le riz, c'est vrai. Là, on parle de la chiasse, hein,
pour dire
les choses de façon prosaïque. Le riz, c'est vrai. Carotte, c'est vrai. Banane,
c'est vrai.
Ouais.
Okay.
Banane, alors un truc que personne ne fait non plus, parce que enfin, moi, je trouve ça dégueulasse, c'est la compote de coing.
Ouais, c'est précis en plus.
Ouais, mais c'est dégueulasse. Mais ces trucs-là, en fait, t'as deux trucs. T'as manger des aliments qui sont assez digestes, donc du coup, qui font peu de résidus. Tu vois, genre, tout est digéré avant d'arriver à la sortie. du coup, ça te met un peu l'intestin au repos. Et puis, oui, après, accessoirement, t'en as qui... l'amidon, du riz, etc. T'as des trucs qui jouent sur le transit et qui te permet de sortir de la zone rouge un peu plus rapidement.
Ah, t'as tourné autour du truc magnifiquement.
Ouais, t'as vu ça?
T'as évité les écueils, tout. Enfin, on
écrire, sent que t'as écrire un bouquin, je veux dire, c'est pas mal
de métaphores,
pas mal de périphrases pour éviter de dire bah c'est de la merde mon vieux finalement.
Et justement, tu me disais qu'il y avait des spécificités selon certaines maladies. Des fois, on devait manger ou pas certains trucs.
Ouais.
Tu pensais à quoi?
Bah, alors, typiquement pour les petits trucs, bah là, bon, évidemment pour la gastro, voilà, c'est ça. Pour les petites maladies ORL, etc., je te disais, à part la flotte, éventuellement des fruits, il n'y a pas grand-chose qui aide à guérir. Après, il y a des... C'est plus une façon de bouffer.
Okay.
Idéalement, quand t'es malade, que t'as pas très faim et qu'il faut quand même bouffer un peu, tu peux fractionner tes repas. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un petit déj, un déjeuner, un dîner, bah tu prends un petit thé le matin avec des trucs un peu mous à bouffer, machin, etc. À 10h, tu refais une petite collation. À 11h, si t'as encore un peu la dalle, tu reprends un truc. À 13h, là, tu vois, tu manges finalement sur la longueur de la journée la même quantité, voire un peu moins, parce que t'as pas forcément super faim, mais tu manges souvent.
C'est pour moins faire travailler l'estomac, ouais, direct d'un coup.
Ouais, et puis ouais, comme t'as pas forcément faim, si tu te dis bah c'est 3 repas et entre les trois je fous rien, bah du coup tu te retrouves à pas forcément bouffer assez.
Ouais.
Après sur les aliments ou les régimes alimentaires spécifiques, c'est plus pour des maladies un peu plus emmerdante, tu vois, genre l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, ou après les opérations où on donne un régime sans résidus pour laisser le temps à ton laisser le temps à ton intestin déjà de se réveiller de l'anesthésie, parce que lui aussi
il a un peu souffert.
et puis si t'as une genre l'appendicite, tu vois, mine de rien t'as été opéré sur le côlon, donc lui laisser le temps de se remettre un peu. Après, non, des aliments qui aident à guérir, non, il y a ça, enfin...
Oui, c'est plus comme tu disais, des façons de manger.
Ouais, ouais.
Et donc, ce qu'on dit aux gens, c'est continuer. Vous avez le droit de manger des jambons purés, coquillettes.
Ouais, grave.
Coquillettes.
Et puis, tout ce qui est... on n'a pas parlé de la texture, mais...
Oui, tout ce qui est mou.
Ouais.
Mais parce que j'ai l'impression que c'est le truc commun, c'est entre les soupes, les coquillettes, la purée,
tout ces
le jambon, ça reste de la viande assez molle.
Mais c'est parce que, t'as ce côté
confort,
machin, côté régressif et tout. Et mine de rien, c'est quand même plus facile à avaler. Enfin, je veux dire, quand t'as une infection ORL, quand t'as la gorge en feu ou machin, etc., c'est quand même plus facile d'avaler un truc de purée que du KFC, tu vois, ou des trucs panés ou un bol de céréales et tout. Donc, en vrai, quand t'es malade, à part deux trois conneries comme bouffer trop gras ou bouffer trop chaud, en règle générale, je crois qu'on peut se faire pour relativement confiance parce qu'on a plutôt les bons réflexes. Ouais.
Et manger épicé
en même temps je suis désolé.
On verra si on la laisse ou on se tire la coupe.
Manger épicé, c'est pas forcément une bonne idée. Tu peux avoir le côté
réveil,
décongestionnant, ouais. Machin, etc. Tu peux avoir le côté ça te débouche le pif, machin, etc. En même temps, comme je te disais tout à l'heure, pour l'inflammation. Si t'as les amygdales ou la gorge ou l'estomac ou tout ça un peu inflammé, si tu bouffes en plus, si tu te colles du piment par là-dessus, c'est pas forcément une bonne idée.
Et le grog, on n'a pas parlé ça du grog.
Bah globalement l'alcool c'est pas une bonne idée quand t'es malade.
Donc c'est un mythe un peu le truc de.
Ouais.
C'est un truc qui te donne l'illusion d'aller mieux du coup?
Oui c'est ça, complètement ouais.
Ça te bourre un peu la gueule quoi.
En plus l'alcool, ce qu'il faut savoir c'est que l'alcool ça dérègle tes. Tu sais on dit l'alcool ça réchauffe machin. Ouais. Etc. En vrai non, ça réchauffe pas du tout l'alcool, au contraire. Parce que ça dérègle les mécanismes de thermorégulation, c'est-à-dire que ton organisme il est réglé pour maintenir à peu près sa température interne. L'alcool, ça dérègle ces trucs-là. Donc, quand en plus tu as de la fièvre, si tu mets de l'alcool par là-dessus, etc., c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc, je pense que le grog, t'es toujours malade, mais tu t'en fous en fait.
C'est ça.
Parce que t'es cramé.
Merci à Julien, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, Dans ton corps. Et aussi, merci à Alexandra Lepage, que vous retrouvez chez Papa Sapiens. Toutes les infos et les adresses évoquées durant cet épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesécoutes au pluriel.fr/bouffon au pluriel aussi, et puis sur notre carte Mapster. On est aussi sur Twitter, @bouffonne, et pareil sur Instagram. Bouffon, c'est une émission de Nouvelles Écoutes que j'anime, moi, Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio de l'arrière-boutique, prise de son Charles de Cilia, production et coordination Laura Cussard. Parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas un petit commentaire. À la semaine prochaine !